Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 10e podcast de Geneviève pour le cours Intervention, Exclusion et Violence. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Geneviève Robidoux, qui est une de mes anciennes étudiantes. Je suis donc contente de l'avoir. Et aussi une éducatrice spécialisée là, dans une école primaire. Donc, bienvenue Geneviève, merci d'avoir accepté.
Ça fait plaisir.
On parlait déjà, avant de parler de notre vignette clinique, tu me parlais d'un projet pilote, là, auquel tu avais travaillé, tu avais participé. J'aimerais ça que tu me parles de ça, mais avant que tu te présentes, parce que ta fonction est un peu particulière là, au sein de l'école, puis je veux que les étudiants comprennent bien. Là.
Oui, ben en fait, moi, je suis à la base TES École, donc vraiment en charge de l'école au complet. Mais en plus de ça, je suis intervenante pivot, donc c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire le lien avec les services du CIUS. Tout passe par moi, donc même si c'est des élèves, mettons, avec lesquels je travaille moins parce que j'ai aussi ma collègue qui travaille avec les plus jeunes, mais va devoir me référer les élèves pour que je puisse être intervenante pivot. Ensuite de ça, j'ai un rôle à l'interne de responsable d'école. C'est sûr que ça me donne un peu plus de latitude là, sur certains projets, dans le sens où on n'a pas de directrice adjointe, nous, à l'école. Donc, c'est moi qui ai ces fonctions-là à la commission scolaire. Donc, ça me donne, exemple, le droit de pouvoir suspendre un élève à l'externe de l'école ou des choses comme ça, sans l'approbation de la direction, si elle n'est pas là. Donc, c'est sûr que des fois, mon mandat va un petit peu plus loin que juste le rôle habituel de TES École.
Tantôt, quand on parlera de Frédéric, on essayera de se limiter au mandat pour savoir à qui devrait se référer l'éducateur spécialisé. Mais avant d'en arriver là, on parlait du projet pilote qui est en lien aussi avec les enfants qui vivent des situations de vulnérabilité. Là. Pas l'enfant qui...
Non, pas un enfant...
Il vit pas de problème, là. On n'était pas là, là.
Non, pas du tout. Donc, en fait, c'est ça. Ça a été lancé dans les écoles il y a un an et demi, pendant la COVID, en fait. C'était pour voir un peu, pour essayer de faciliter les échanges entre les écoles et les services sociaux, en fait, de tout ce qui peut être donné comme service. On trouvait que c'était difficile, on ne savait pas à qui référer, comment référer. Souvent, c'était un besoin des parents aussi, qui avaient besoin de soutien, qui ne savent pas par où passer. Le 8-1-1, c'est large. Qu'est-ce qu'on fait comme demande? Par où on passe? Donc, c'était vraiment, ils ont mis un intervenant pivot dans chaque école qui va... On a un point de contact, une personne au CIUS qu'on rejoint pour poser nos questions, tu sais, qui peuvent nous guider. Ça, c'était déjà là dans le projet pilote. Et supposons qu'un parent me dit « Oui, j'ai besoin d'aide pour telle situation. Je demande l'autorisation de référer. » Puis j'ai un petit formulaire que je vais remplir, que le CIUS nous a fourni, que je faxe. Puis habituellement, entre 24 et 48 heures, quelqu'un du CIUS va contacter la famille pour faire la demande, en fait, un peu voir là, de quel service ils ont besoin, puis d'être capable de l'envoyer ou en service immédiat ou sur une liste d'attente ou d'être capable de donner quelque chose en attendant. Par exemple, si des fois ils ont besoin de psychologie, il y a 2 ans d'attente, bien là, ils vont aller en psycho-aide ou en TS, TES pour aller faire un premier travail dans la famille jusqu'à se rendre jusqu'à l'autre référence. Donc ça, c'était le projet pilote. On a commencé ça l'année dernière beaucoup, vers la fin de l'année d'avant aussi. Ça a été vraiment concluant. Donc, ils viennent de décider là, qu'ils gardaient cette façon de faire-là puis qu'ils ajoutaient 3 autres axes. Donc, pas seulement quand la famille, elle est consentante et demande du service, mais qu'ils ont ajouté, par exemple, quand il y a on veut référer un jeune en situation de vulnérabilité, mais que le parent est plus ou moins à l'aise dans ça, par où on passe, qu'est-ce qu'on fait. Puis, ben là, ça va jusqu'à la situation de compromission là, qui va jusqu'à la DPJ, mais ils nous fournissent des beaux arbres décisionnels, là, puis on sait par où s'enligner.
Donc, quand tu parles de situation de vulnérabilité, on s'entend qu'on peut avoir en tête la LPJ, mais que soit les informations qu'on a ou les éléments de la situation ne sont pas assez grave encore pour faire un signalement, mais assez important pour se dire que ça prend du soutien.
Exact. Puis que des fois, le parent, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est un manque de ressources qu'il sait pas, ou des fois, il ne le voit pas qu'il y a une difficulté dans sa famille. Donc, c'est exact, c'est ça. Vulnérabilité, ça peut être... On n'est pas en négligence, on est vraiment en situation là où le jeune a des difficultés, puis on se rend compte que ça part à la maison.
OK. Et à ce moment-là, est-ce que tu, avant de faire le pivot là, avec le CIUS, est-ce que tu as rencontré, tu as observé chez l'enfant des situations, les enseignants t'ont rapporté des choses, Après ça, tu rencontres les parents pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça fonctionne un petit peu comme ça?
Oui, mais habituellement, je vais commencer par aller m'appuyer sur la direction.
Okay.
Pour voir ce qu'elle en pense, parce que des fois, elle a certaines informations que moi, j'ai pas aussi. Puis là, on va se faire un plan de match ensemble. Donc, mettons, elle va me dire, ah, ben moi, je vais parler aux parents, ou toi, peux-tu parler aux parents, selon aussi le lien qu'on a avec les parents. Des fois, on va le faire ensemble. Des fois, on fait ça sous forme de plan d'intervention informel, tu sais, ou de dire, on a telle difficulté, pouvez-vous nous pister? On essaye d'inclure le parent le plus possible dans ça pour pas qu'il se sente en confrontation. Puis, on va se faire un plan de match qui souvent va aller vers une référence à l'externe, mais on va commencer par voir ce qu'on peut faire à l'interne.
Tout ça dans le but toujours d'aider l'enfant, fait que c'est comme la rencontre avec le parent, c'est pas pour pointer du doigt le parent sur ce qu'il fait de pas bien, mais c'est plus pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre jeune aille mieux, au moins à l'école.
Puis souvent, ce qu'on va avoir comme approche, c'est écoutez, on se doute que ça doit pas être facile parce que souvent ils nous ont verbalisé des choses aussi, tu sais, que c'est pas facile à la maison, par exemple, j'arrive pas à faire ses devoirs, il y a ci, il y a ça, puis en bout de ligne, ça fait qu'il y a du gros retard parce qu'il fait rien. Bon, c'est une situation de base, là, mais on va intégrer le parent et on va dire ben écoutez, vous êtes le mieux placé pour nous pister. Qu'est-ce qui fonctionne avec votre enfant? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Là, souvent, ils vont dire, ouais, mais là, je suis un peu à bout de mes ressources, etc. Fait que là, ils nous ouvrent la porte, puis là, on commence à travailler comme ça.
Parfait. Fait que là, on offre qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, avec les liens, avec le CIUS. Est-ce que tu peux me dire si ce projet-là, il est dans l'ensemble des écoles de Québec ou c'est juste entre la capitale nationale?
C'est toutes les commissions scolaires.
Toutes les commissions scolaires, primaires et secondaires ou seulement primaires?
Primaires et secondaires. Puis secondaires, ils ont même des rencontres de plus une fois par mois où est-ce qu'ils se concertent avec le CIUS pour parler de cas d'élèves. Là.
OK. Vraiment. Super, merci beaucoup. Ça fait le tour de notre première partie de podcast. On se revoit pour la deuxième dans pas longtemps.